retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast de Mixtep. Aujourd'hui, nous allons parler du Chief Happiness Officer. Alors, c'est un épisode un peu long. Parfois, les sujets nous emportent un peu loin. D'ailleurs, ils m'emportent même sur mes grands chevaux pendant cette interview. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, et nous rejoignons tout de suite Arnaud Colléry. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Bienvenue sur ce podcast. C'est dur de t'attraper parce que tu voyages un peu partout sur la planète. Et on va commencer directement avec ça. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens et ce que tu fais ?
Je suis né en Champagne, j'ai grandi à Paris et j'ai toujours été attiré par l'étranger, en particulier les États-Unis et le Japon. Ce qui fait qu'à 16 ans, je me suis barré un an en high school américaine. Puis à 19 ans, j'ai vraiment fermé un peu les portes de la France. Je suis parti en fac japonais, j'ai eu une bourse. Et puis de là, ça fait 20 ans que je vis un peu partout, en particulier en Asie et aux États-Unis. Donc j'ai vécu presque 6 ans en Asie, un an et demi en Chine, un peu dans le reste, 4 ans à Tokyo et 10 ans aux États-Unis, 5 ans à LA et maintenant ça fait plus de 5 ans à New York. Mais pour juste brouiller un peu plus les pistes, je passe surtout du temps en ce moment pour mes ateliers du bonheur, surtout dans les Caraïbes et surtout dans le Moyen-Orient, partout dans le Moyen-Orient. Ce qui est étonnant et passionnant, donc je découvre des autres cultures. Donc je suis basé à New York.
Tu es basé à New York, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ces ateliers du bonheur et Stand Up for Passion ?
Donc je fais deux choses, surtout effectivement. Donc je fais Stand Up for Passion, qui est un storytelling event que j'ai créé donc, il y a 2 ans et demi maintenant. On en a fait 16. On en a fait un à Londres, quelques-uns à Tokyo. Et ma base, c'est quand même New York. On en fait un tous les 2 mois, en gros. On va être bientôt au Népal, et l'an prochain, on est à Genève, à Singapour. Et le bon moment venu, j'espère le monter à Paris dès que j'ai un bon sponsor, dès que j'ai une bonne équipe. Ce qu'on fait, c'est très simple. Je prends 7 personnes qui ont une histoire assez incroyable. Et à l'inverse de TEDx ou TED, c'est pas des histoires qui vont changer le monde, forcément, mais c'est des gens qui ont été transformés par leur propre histoire, quel que soit ce qu'ils font. C'est vrai que la plupart de mes mecs ou des nanas sont des entrepreneurs, beaucoup dans la tech, mais ça peut être aussi, là, le prochain, ça va être le portier d'un building, ça peut être une housewife, ça peut être n'importe qui est vraiment heureux de vivre et qui a trouvé sa façon de créer sa vie autour de ses propres valeurs. Et il y a souvent un élément dramatique ou une transformation, un cassage, une cassure, quelque chose qui a complètement transformé sa vie, souvent. Ou c'est lui qui l'a décidé, ou ça lui est arrivé de plein fouet, et il a décidé de créer sa vie selon ses propres valeurs. Donc on prend 7 personnes, je les coach 3-4 semaines par avant en storytelling. Moi, ça fait, j'ai passé 10-15 ans sur la scène, donc en tant que comique, en tant qu'acteur, en tant que scénariste, en tant que producteur de films. Donc je connais par cœur la scène et j'adore ça. Et en fait, j'amène mes techniques de scène et d'écriture à la transformation de vie et un message qui est autour du sens de la vie. Donc, c'est passionnant. Donc, je mélange en fait ce qui est entertainment. Et entertainment, c'est ce qui est un peu light, ce qui est normalement fin. Enfin, ce qui est normalement.
Le divertissement.
Ouais, divertissement, voilà. C'est ce qui est normalement pas très important, on va dire ce qui est, à ce qui est très important, le plus important, le sens de la vie. Donc, c'est 7 personnes qui vont parler du sens de la vie par rapport à elles. Hein. C'est juste par rapport à elles. Donc, c'est pas du tout bien que je fasse à New York, c'est pas du tout la méthode américaine où pour être heureux, il faut faire ci et ça et ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est moi, je suis devenue heureuse en faisant ça. Ou moi, je suis devenue heureux en faisant ça. Je fais ça et par ailleurs, je fais des journées bonheur en entreprise. Pour l'instant, je ne le fais pas pour le grand public. Pour l'instant, c'est sur les entreprises parce que je pense que c'est là où on a vraiment besoin de bonheur. Je crois que tu t'y connais pas mal aussi en team building. Ce que je fais, c'est j'amène des ateliers qui durent 8 heures, de 9h30 à 5h du soir. Pas de PowerPoint, aucun. Pas de trucs à donner, pas de trucs à écrire. C'est que dans le vif. C'est que interactif, c'est que profond. Ce qui se passe, c'est qu'on va passer 2-3 heures à faire de l'impro. Je vais tous les faire rire, on va être tous au même niveau. L'improvisation, c'est un de mes dadas aussi, j'adore. J'ai fait de l'improvisation dans 10 pays autour du monde, j'adore ça. Et une fois qu'ils sont bien marrés, il y a une bonne connexion entre chacun, il y a la peur du ridicule qui s'est échappée. Et l'improvisation, c'est quoi? J'ai une amie qui est aussi improvisatrice, elle appelle ça de love technology, la technologie de l'amour. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est en gros, il y a quelque chose de oneness qui se passe, quelque chose d'universel qui se passe entre tous. On ne réfléchit pas avant de parler, mais dans le côté bien-être. Et il y a des choses vraiment drôles et sympas qui se passent, parce qu'en fait, c'est des choses vraies qui sortent dans l'improvisation. Et c'est pour ça que ça tourne, c'est pour ça que ça tourne à la rigolade, parce que c'est vrai. Donc on fait ça, et puis après 2-3 heures, on va dans le profond. Et les gens partagent des histoires importantes pour eux. Et on finit par les choses qui sont importantes dans mon entreprise. Donc on va prendre le mot en anglais, c'est issues, leadership issues,
Des problématiques,
de
des...
leadership. Et je les fais parler autour de ça. Quelles sont leurs vues là-dessus? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Comment ça les bousille ou pas dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent changer, etc. Et je fais en sorte que le président de l'entreprise ou le manager ou le chargé d'équipe qui m'a engagé soit là pour qu'il écoute. Ça, c'est primordial parce qu'il y en a souvent qui veulent m'engager. Oui, faites en sorte que mon équipe, là, elle soit plus heureuse. Là, ça va pas vraiment. Ils s'entendent pas et tout. Je leur dis, écoutez, souvent, c'est entre l'équipe et le management. Si le management n'est pas là, ça va pas le faire. Donc, ça sert à rien de m'engager. Donc, je fais en sorte que le manager soit là et il soit exactement au même niveau que tout le reste de l'équipe, que ce soit un directeur financier ou un chef de produit marketing. On est tous au même niveau pendant la séance. Ça, je prends entre 5 personnes minimum et 50 personnes. C'est lourd quand c'est 50, mais ça le fait quand même. Et voilà, c'est passionnant. Le but, c'est très clair. C'est amener du bonheur dans l'entreprise. Et ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire ramener de la confiance entre individus, entre les employés eux-mêmes et entre les employés et le management. Parce que l'aspect primordial qui baisse, qui ne marche pas dans les sociétés, que ce soit en France, aux États-Unis, à Aruba, au Venezuela, au Japon ou n'importe où d'ailleurs, j'ai fait cette workshop dans 15 pays différents, c'est le manque de confiance. Ils se sentent plus en confiance avec les autres. Et puis la troisième chose que je fais, c'est je fais pas mal de public speaking un peu partout, comme on dit, public speaking. Je fais
Tu
pas
fais des
mal de.
conférences, des
Je fais des
interventions.
conférences. Je fais pas mal d'interventions un peu partout, souvent liées au bonheur ou la passion dans l'entreprise. Et bon, ces deux sujets me passionnent. Alors, je vais peut-être répondre à une question que tu vas te poser. On me la pense souvent parce que je fais Stand Up for Passion, qui est sur la passion individuelle, hein, sur ce qui te branche le plus. Ce qui était ta ligne de mire, ce qui est ta mission de vie, et je travaille sur le bonheur entreprise. Et souvent, les gens me disent, mais c'est complètement différent. Et pour moi, non, parce que la première chose que je dis quand je rentre dans le monde entreprise, dans les premières 10 minutes, je leur dis ce que je fais à Stand Up for Passion, et souvent, les présidents d'entreprise me connaissent parce qu'ils me connaissent à Stand Up for Passion, et je leur dis, le but, c'est que vous soyez heureux. Pendant votre temps à l'entreprise, mais il est vrai qu'il faut garder une passion à côté. Il faut savoir quel est votre sens de votre vie, que ça soit dans cette boîte ou pas. Et ce sera très important de garder votre passion, parce qu'il y a des jours où ça ne marche pas au boulot, ça ne marche pas avec votre famille, ça ne marche pas avec votre copain, ou copine, ou mari, ou femme. Et donc à ce moment-là, il faut aller sur votre passion, sur votre bonheur, sur ce qui vous rend le plus heureux. Et donc, c'est une des questions aussi qui me viennent de pas mal de président de boîte qui me disent, mais Arnaud, si je t'engage avec ton discours, machin, passion, il y en a au bout de la journée, ils vont vouloir se barrer. Ils vont vouloir suivre exactement ce qui leur tente de leur vie. Et je leur dis, et là, je laisse un temps, je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, oui, et c'est tant mieux. Si tu as une personne ou deux sur les 50, en moyenne, c'est 35 hein, qu'on est par équipe. S'il y a une personne ou deux qui veulent se barrer, c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas quelqu'un de non productif au travail. Toutes les études montrent que 90% des gens sont moyens engagés pendant une journée. Il y a 30% des gens qui sont assez engagés de temps en temps. Donc les gens qui sont désengagés au travail, la plupart du temps, tu ne veux pas qu'ils restent dans ta boîte. Donc, c'est mieux qu'ils partent d'eux-mêmes.
Je reviens sur quelque chose que tu as dit. On n'a pas encore abordé, il faut savoir qu'on n'a pas encore abordé le sujet qu'on doit traiter dans cette interview. Mais c'est pas grave, je suis le courant. Tu parles de tes journées bonheur, j'ai l'impression que tu, en fait, décomplexes la parole. Donc tu veux parler de ramener la confiance. Comment, une fois qu'on a décomplexé la parole, déjà en quoi ça met en confiance? C'est pas parce que on se dit les choses que ça peut pas non plus déclencher des heurts. Et en quoi décomplexer la parole nous met en action vers un nouveau mode de fonctionnement, par exemple, plus efficace, plus efficient pour nous?
D'après ce que j'ai vu, c'est que une fois que la parole est décomplexée et qu'on s'est un peu dit les quatre vérités, enfin, je m'entends, quand je dis les quatre vérités, c'est surtout au niveau qu'est-ce qu'on apprécie chez l'autre employé que je fais dire dans mes ateliers du bonheur. Donc, une fois qu'on s'est dit tellement de choses positives pendant une journée, c'est très dur lorsqu'on revient le lundi au boulot, parce que c'est souvent le vendredi, l'atelier. Lorsqu'on revient le lundi, c'est pratiquement plus possible de s'énerver contre quelqu'un, etc. Ça prend au moins 6 mois de peut-être revenir à d'autres choses. Bon, hein, le bonheur, après, c'est comme un muscle. Hein. Je dis, il faut continuer à le travailler, continuer à se rendre compte de l'importance de ce truc. Donc, une fois qu'on a décomplexé, une fois qu'on a senti l'autre en tant qu'humain, les rapports changent obligatoirement. Et l'autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va toujours faire les processus et je sais pas, les projets, les étapes d'un projet, etc. Simplement, on va se parler plus calmement et simplement, on va être plus patient et on va avoir plus de compassion quand l'autre va être plus lent ou va pas être la même valeur. Parce qu'un des trucs sur lesquels on axait beaucoup pendant le team building, la journée de team building, c'est qu'on a tous des valeurs différentes quelque part, même si elles doivent se regrouper au sein de l'entreprise, mais on a des valeurs et on a des modes de fonctionnement complètement différents. Il faut apprécier qu'on a des modes différents. Il y en a un qui va être beaucoup plus logique, il y en a un qui va être beaucoup plus créatif, il y en a un qui va être beaucoup plus humain, il y en a un qui va être drôle tout le temps. Et donc, en gros, c'est d'apprécier, OK, la personne qui va être drôle dans l'entreprise, c'est souvent un mec qui n'est pas trop organisé. Eh bien, il faut accepter. Ce qu'il amène, c'est le côté cheerleader dans l'entreprise. Et on a besoin, dans toutes les entreprises, on a besoin d'un mec qui fasse rire les autres. Il va être moins organisé, donc de moins s'engueuler, par exemple, si le mec n'est pas organisé. Là-dessus, après, que la personne qui est trop rigide et logique, etc., il n'arrive pas à créer, c'est pas un créatif. C'est son truc. Le mec est rigide et illogique. On a besoin des gens comme ça. Il ne faut pas aller vers lui quand on a besoin de nouvelles idées. Moi, par exemple, un des trucs sur lequel je dis, même si mon truc, c'est l'esprit d'équipe et les équipes, je leur dis à tous les patrons, je suis contre, moi, je suis un créatif à la base. Je suis contre des trucs où on met 10 personnes pour réfléchir à une idée, etc. Non, tu prends les 3 personnes les plus créatives de la boîte, quel qu'il soit. Tu prends pas tout le monde. On va pas écouter tout le monde. Si le mec c'est pas un créatif, on va pas forcément écouter. Et pareil pour mettre les trucs de logique. Tu vas pas demander à un créatif d'être chef de projet. Le lendemain des ateliers bonheur, j'ai une grande discussion de 2 heures avec le chef d'équipe ou président ou peu importe la personne qui m'a engagé. Et je donne mon intuition sur toutes les personnes que j'ai vues. Que des trucs positifs. Hein. C'est jamais. Je dis cette personne, elle est très très bonne pour ça. Je l'ai vue et je le vois parce que je travaillais avec plus de 150 équipes quand même. Hein. Donc, que ce soit dans ce que j'ai fait maintenant, dans full time, je suis coach full time depuis 2 ans et demi. Mais avant, j'ai travaillé donc dans le filmmaking, dans la finance, dans la politique, dans toutes sortes d'équipes dans le monde entier, dans 30 pays différents. Donc, les équipes, je les ai vues, les relations humaines dans différents secteurs, j'ai vu. Et donc, le lendemain, on se fait une grande conversation avec le mec qui m'a engagé ou la nana qui m'a engagé. Et là, on dit comment utiliser au mieux les talents de chacun. Et souvent, effectivement, il y a des réorganisations, mais que positives. Il n'y a jamais de gens qui ont été virés. C'est que des promotions. C'est la personne va être demandée à faire un peu plus dans son talent. Je dis, mais attends, il faut utiliser. Le mec est vraiment. Je me rappelle, j'étais au Qatar, une nana qui était tellement bonne dans la communication. Et elle avait un truc administratif. Je dis oui, mais elle est bonne dans l'administration. Oui, d'accord, elle est bonne parce que elle a fait ça depuis. Il faut absolument que tu la mettes dans quelque chose en communication. Fais ce que tu veux, mais tu la fasses organiser des événements, elle fait du PR en relations publiques, etc. Et puis finalement, quelques mois plus tard, elle est devenue directrice des relations publiques. Et ça, on le fait, et ça se passe pas tout le temps, mais assez fréquemment. Donc, pour répondre à tes questions, ça se fait d'une manière très, finalement, très logique de, après l'atelier, que les modes de fonctionnement deviennent plus simples, et plus en rapport avec ce que la personne a amené ou ce que peut amener dans sa vie. Parce que pendant 8 heures de suite, je les vois vraiment, les gens. C'est pas 8 heures sans PowerPoint à que interagir par tous. Ils ne peuvent pas me mentir, les mecs. Ils sont obligés d'enlever leur masque. Je suis obligé de voir à travers eux, si tu veux. Toutes sortes d'exercices, toutes sortes de trucs. Je vois ce qu'est la personne à la fin de la journée, quoi. Et donc, on voit ce qui les anime, quoi. Et moi, mon but, c'est de repérer les talents de chacun. Je suis fasciné. C'est comme ça que j'amène les talents à Stand Up for Passion. C'est les gens qui ont une ligne de mire précise sur quelque chose et j'emmène à Paris. Donc voilà, c'est une longue réponse à la question.
Alors justement, on arrive à la fin du temps parti et nous n'avons pas abordé le sujet de l'interview. Donc là, ça risque d'être un peu plus long. Donc on parle de plus en plus des Chief Happiness Officer. C'est vrai que là, j'ai vu récemment un reportage, je crois, qui est passé au Journal de France 2 ou peut-être à Envoyé Spécial, quelque chose comme ça. Et j'ai même des demandes de contact sur LinkedIn de Chief Happiness Officer. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça fleurit partout.
Ça fleurit partout.
Et moi, je t'avoue, qui ai pourtant travaillé longtemps sur ce sujet,
Sur le bonheur,
je
oui.
me demande ce que ces gens, déjà, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'entreprise, quel est leur rôle. Est-ce que tu peux m'éclairer?
Bien sûr. Donc, effectivement, c'est un sujet qui me passionne, le Chief Happiness Officer. J'ai fait un TED Talk à Aruba, un TEDx Talk là-dessus. Donc, si tu Google Arnaud Chief Happiness Officer, tu vas voir en 15 minutes, j'essaie de le décrire un peu. C'était il y a
Je le
un an et
mettrai
demi.
en lien dans les
Super.
commentaires du podcast.
En fait, c'est pour moi, donc avant tout, ouais, effectivement, le métier explose. J'ai l'impression, surtout en France d'ailleurs. En fait, c'est né aux États-Unis il y a 20 ans, une vingtaine d'années. Dans la Silicon Valley, il n'y en avait que quelques-uns. Et aujourd'hui, il y en aurait 150 dans la Silicon Valley. Après, il y aurait une vingtaine de mecs comme moi. On est consultant sur ce métier dans le monde entier. On n'est pas plus. Et puis, en France, j'ai l'impression qu'il y en a presque d'une centaine. Mais dans les derniers 18 mois, quoi, il y a 18 mois, il y en avait 3-4. Le Chief Happiness Officer, donc chef du bonheur, va s'occuper de tout ce que le DRH ne peut pas ou ne veut pas faire. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a tellement de contraintes, tellement d'obligations, tellement de compliance, de contrats. Puis il faut toujours engager des gens de plus en plus. Et malheureusement, les DRH doivent virer les gens de plus en plus. Et malheureusement, on ne sait jamais si la boîte va être en place dans un an. On ne sait jamais si l'intitulé, la personne qui a une position, va toujours avoir du job dans un an. 50% des jobs qui seront en place dans 8 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc ils ont un boulot de dingue, les DRH. Plus que jamais. Et au niveau des règles à faire, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y en a de plus en plus. Donc les mecs sont. Ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administration, plus que jamais. Ils n'ont plus du tout le temps de s'occuper du côté humain. Déjà, ils n'étaient pas tous intéressés par ça, les DRH, mais quand même beaucoup étaient rentrés dans ce milieu pour faire le côté humain. Et puis finalement, ça devient un truc administratif pour beaucoup. Donc le chef du bonheur, il va s'occuper que de l'humain, pour moi. Tout ce qui peut permettre à l'employé ou aux équipes de se sentir épanoui, de se sentir épanoui, et de travailler bien en équipe. Donc pour moi, il y a plusieurs fonctions. Alors il va commencer par, il fait des tracking, il fait des surveys, il fait des enquêtes assez d'une façon permanente pour connaître le bonheur en entreprise. Donc que ce soit des emails, peu importe sa façon qu'il le fasse. Mais tous les 3 mois, il va faire une enquête de savoir si les gens sont bien, heureux, ce qui manquerait, etc. Après, il va s'occuper des événements. C'est quelqu'un qui adore, c'est normal, forcément, quelqu'un de très social, qui adore monter des événements. C'est quelqu'un de plus humain possible. Pour moi, la meilleure formation, C'est quelqu'un qui aurait fait du volontariat pendant 5, 6, 8 ans. Ça, c'est la meilleure formation, quelqu'un qui est près des gens et qui a organisé des choses. Donc, il va organiser les sessions de team building, que ce soit des team building avec des gens comme moi, des consultants qui viennent parler de l'émotionnel, ou que ce soit des choses sportives ou des croisières ou je ne sais trop quoi. Donc, il va organiser ces journées. Et puis, il va surtout passer du temps avec chaque personne pour moi et chaque équipe en étant en gros un coach de vie dans l'entreprise. Et son seul but, il faut que ce soit très transparent avec le président directeur général de la boîte, très transparent, c'est toutes les conversations qu'il a avec les employés, il faut que ce soit anonyme. Il ne faut pas que le président sache ce qui se passe. Il faut qu'il donne pour moi. Je vais créer une formation bientôt sur le Chief Happiness Officer parce qu'on me le demande tout le temps. Donc d'ici 2 mois, elle sera créée. Il ne faut pas que le président sache ce qui s'est passé exactement dans les conversations qu'il a, pour que l'employé se sente en totale confiance avec le chef du bonheur. Donc ça doit être quelqu'un d'un côté très social, qui aime les gens, faire des soirées, etc. Et d'un côté, c'est pour ça que c'est pas évident ce job, d'un côté quelqu'un qui respecte absolument l'anonymat, qui adore être juste dans l'écoute, juste écouter les personnes, qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus pour être heureux, et même qu'ils aient pouvoir, qu'ils puissent parler de leurs problèmes personnels à la maison, etc., qui va peut-être influer leur job. Pour moi, c'est le grand truc du chef du bonheur. Et puis après, de regarder au... Et puis après, c'est de regarder d'une façon, là c'est micro, mais d'une façon macro, c'est regarder au fonctionnement de chaque équipe. Qu'est-ce qu'elle manque? Par exemple, Google aux États-Unis, ils ont un espèce de traité, je crois, de chaque équipe doit se créer ses propres valeurs, ses propres missions. Et j'y crois, et forcément, au sein de l'entreprise, en gros, chaque équipe doit se créer sa propre culture, ses propres référentiels. Et le chef du bonheur devrait passer d'équipe en équipe, voir si effectivement c'est respecté, s'ils sont tous en accord avec cette équipe. Donc c'est tout ce qui est à fond le côté humain. Et dès que les gens ne se sentent pas respectés, dès que les gens ne se sentent pas en confiance, ils devraient pouvoir aller voir le chef du bonheur et pouvoir parler. Et le chef du bonheur respecte le truc. Et là, il va voir en accord avec cette personne, est-ce que je vais parler à ton chef d'équipe, est-ce que je vais parler au président de la boîte ou pas? Mais donc il y a deux fonctions. C'est que par rapport au président de la boîte, il doit faire en sorte qu'il y a une sorte de bonheur, d'assez grand bonheur dans l'entreprise pour que ça crée de la productivité, parce que c'est pour ça que le président de la boîte, il veut un chef du bonheur. Hein. C'est pas pour être gentil que les mecs m'engagent, malheureusement. C'est juste pour accroître la productivité. Les études montrent qu'il y a plus de 30% en plus de productivité une fois que le bonheur est établi dans la boîte, ou accéléré, on va dire. Accéléré, ça serait mieux. Voilà.
Il y a plein de choses qui me
Sur le
gratouillent
film, sur le
ouais,
truc.
dans toute cette explication sur quel est son rôle. Parce que je me dis, il y a énormément de risques avec une fonction comme celle-ci, celle d'aller dans le pathos aussi. Quels sont ses moyens d'action sur quelqu'un qui n'est pas bien dans son équipe
Bien
ou qui
sûr.
vient. Donc il crée en même temps le côté léger,
Bien
les
sûr.
événements.
Ouais.
Tu parles aussi de ce qu'on appelle en anglais le why, c'est-à-dire quelle est la mission des équipes, quelles sont leurs valeurs fortes.
Ouais.
Donc on parle d'un job qui touche et à une dynamique de groupe et à une dynamique personnelle et au léger et au profond. Moi, ce que j'en avais vu jusqu'ici, hein, de ce rôle, ou ce que j'en ai vu à la télé, hein, parce que j'en connais pas personnellement, c'est quelque chose qui me paraissait assez dans mettre les gens comme des coqs en pâte, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément la meilleure manière
Du tout, hein.
d'être efficace en entreprise. Et
Non,
donc,
du
on
tout.
confond souvent et le bien-être, et on fait la fête, et on
Bien
est
sûr.
copains,
Ah non,
et
bien sûr.
une espèce de floutage des lignes que je ne comprends pas forcément très bien. Donc, je
Bien
comprenais
sûr.
cet aspect-là que tu décris aussi, hein, avec les événements. Il y a l'aspect team building, avec faire venir des gens qui vont nous faire travailler sur des choses en équipe profonde. Mais alors cet aspect un peu psy, Je le trouve hyper inquiétant, bizarrement.
Ben non, mais je peux comprendre parce que
c'est vrai que ça doit être des perles rares. S'ils arrivent à concilier tout ça sans être pris et tiraillés entre plusieurs choses, c'est étonnant.
Ah non, mais je te comprends tout à fait. Enfin, il y a deux choses. Il y a un, ça peut faire peur surtout en France où on a ce côté cartésien, puis séparation, et puis pas aller trop dans le profond quand c'est un truc comme dans les boîtes. Donc ça, déjà, on a
Non,
un
mais
jeune.
est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le lieu?
Est-ce que pour moi, c'est le... Ah, pour moi, c'est le lieu. Pour moi, c'est le lieu, j'en suis. C'est ce que je dis, hein. C'est comme ça que je vends mes ateliers du bonheur. On est obligé d'être à fond dans l'humain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement connecté, on est 24 heures sur 24 connectés. Aujourd'hui, l'entreprise, enfin, j'en parlais avec ma mère ce matin, dans les années 80, j'en dis, vous avez vraiment eu la vie facile quand même. C'était vraiment facile pour les gens qui avaient 30 ans, 40 ans dans les années 80. Ils allaient à leur métier, ils revenaient le soir à 6 heures, 7 heures, 8 heures, et basta jusqu'à le lendemain, 9 heures, 10 heures. C'était terminé. Ils pouvaient aller, leur famille, leurs amis, les fêtes, c'est terminé. Il n'y a plus de boîte, que ce soit en France ou aux États-Unis, où tu n'es pas toujours connecté, où tu as le stress. T'as le stress de. Tu ne sais pas si dans un an, tu auras toujours ton job. Tu ne sais pas si dans un an, la boîte est toujours de là ou a failli. Tu ne sais pas si ils ont besoin de toi ou pas pour la fonction, indépendamment du fait que tu fasses bien ton job. Et puis, tu vas être connecté avec tes boss par email, etc. le soir. Donc, ça crée tellement de stress, etc. Ça fait que quoi? Ça fait que la société, quand je dis la société, la boîte dans laquelle tu travailles, c'est devenu un peu ta famille. Que tu le veuilles ou pas, hein, ça c'est... Que tu le veuilles ou pas, c'est devenu ta famille aussi. Et donc, tu es obligé d'avoir du bonheur, d'accélérer du bonheur. Et donc, tu es obligé de parler de trucs super profonds et privés, etc. Alors effectivement, la question pour moi, la question qui vient, c'est ce job, ça doit être très important qui fait ce job. C'est pas un petit truc... On va pas engager le mec qui sait faire des soirées dans son école, quoi, pour faire ça. C'est pas ça. C'est pas le mec qui va faire. L'autre jour, j'étais invité à New York dans un truc de office manager, hein, qui voulait savoir plus sur le chief happiness officer. Ils avaient 200 personnes qui sont les. Je sais pas en France cette fonction des office manager. Elle s'occupe de tout ce qui est dans le bureau, l'organisation, etc. Et ils voulaient avoir un peu plus d'informations sur le job. Et le premier truc que je leur dis. Le bonheur entreprise, c'est pas mettre plus de tables de ping-pong et faire les pizzas du vendredi après-midi. C'est surtout pas ça. Ça ne va rien améliorer. C'est pas pour ça qu'une personne va rester en boîte. C'est pas pour les tables de ping-pong ou les soirées une fois par mois. Non, c'est parce que dans l'entreprise, il y a quelqu'un en qui ils ont entière confiance, qui peuvent parler. Oui, donc la personne doit être un peu psy, qu'elle soit formée aux études de psy. Pour moi, c'est vraiment un moitié coach, moitié organisateur. Hein. Et donc, j'en ai parlé à BFM TV il y a 2 semaines. J'ai dit, pour moi, c'est un chaman de l'entreprise. Les chamans dans les tribus, j'ai passé pas mal de temps dans les tribus en Afrique et en Amérique du Sud. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que le chaman, c'était un mec qui faisait rire tout le monde. Il organisait les trucs au coin du feu, les histoires drôles, etc. Et il mettait en scène les gens de la tribu. Et puis, c'est aussi la personne vers qui on allait quand on avait un problème et on lui parlait de tout ce qui n'allait pas, etc. Et lui, il gardait ça pour lui. Ça ne sortait pas. Donc, pour moi, c'est deux fonctions à mort. Donc, dangereux, je ne pense pas, sauf si, effectivement, c'est la mauvaise personne qui est recrutée.
Je n'ai pas dit dangereux, hein, je pense que c'est un rôle... S'il doit être aussi complet que ça, j'ai les deux questions. Oui, est-ce que c'est l'endroit? Parce que ça peut paraître contradictoire. C'est, je fais quelque chose de très proche de ce que tu fais en entreprise. Donc, on va dire, mais pourquoi réagit-elle comme ça?
Mais pourquoi?
Parce que c'est bizarre. L'école prend le relais des parents, l'entreprise prend le relais de notre développement personnel. Je crois beaucoup à l'autonomie, à se prendre en charge. Ouais. Et je crois beaucoup au fait que l'entreprise, ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est aussi de savoir pourquoi on s'engage avec ce groupe de personnes, le pourquoi. Comment on le fait ensemble, ouais. Mais surtout pourquoi, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Ouais. Après, ce côté ultra cocooning, moi j'aime hein, libérer la parole, reconnaître les talents, essayer de trouver en quoi on va contribuer de manière forte à un projet dans lequel on croit. On fait entreprise ensemble. Et je comprends, je veux dire, j'ai travaillé aux États-Unis et j'aime aussi tout ce que les Américains nous amènent dans une forme d'ouverture qu'on n'a pas forcément ici en France. Je pense que mon souci vient du fait que nous, en tant qu'humains, nous sommes d'une complexité incroyable. Ouais. Aucun de nous n'est pareil, aucun de nous n'a le même fonctionnement. Et je suis une amoureuse de l'autonomie. Et c'est vrai que je vois dans ce Chief Happiness Officer un retour à une espèce de paternalisme ou je ne sais quoi.
D'accord.
Alors que c'est vrai, je crois que l'entreprise a tout à gagner à créer des espaces
ouais.
où on peut enclencher la curiosité et l'envie à la personne de trouver quel est son mode de fonctionnement, de prendre des outils à droite, à gauche. Mais je vois dans cette fonction peut-être quelque chose qui... comme une ingérence. Et elle a...
Tout à fait.
Et c'est marrant parce que ça va d'un bout du spectre à le profit, au Chief Happiness Officer. Viens, je vais t'écouter, je vais te comprendre, on va faire des séminaires, on va faire des bouffes ensemble, on va te comprendre. Tu vois, et y a quelque chose où, au milieu, j'aimerais bien trouver un chemin au centre, quoi. Mais je ne connais pas et je ne comprends pas assez bien cette fonction pour vraiment...
Elle est en mouvement, elle est en gestation, puisqu'elle vient de se créer. Enfin, donc, il y en avait quelques-uns qui étaient dans la Silicon Valley. Mais là, elle est vraiment... C'est en ce moment que ça explose, c'est en mutation. Je pense vraiment que d'ici quelques années, il y aura 10 000, 20 000, 30 000 Chief Happiness Officers. Ça va être un truc aussi important dans 20 ans, ça c'est sûr, convaincu, que la finance, le marketing, etc. Tu vas choisir, moi je vais le faire dans le happiness. Alors, peut-être que ça s'appellera autre chose. Aux États-Unis, par exemple, il y a le terme de Chief People Officer. Il y a aussi le terme de Chief Culture and People Officer. Donc, celui qui s'occupe de l'humain et de la culture de l'entreprise. Donc, pour en revenir, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir peur. Mais pour moi, la différence avec le paternalisme, c'est que le paternalisme, il demandait, il fallait toujours, c'était le patron des années 50, 60, 70, qu'est-ce qui va pas, ça va pas. Ben non, tu vas faire comme ça. C'est le papa qui parlait un peu, tu vois. C'était le papa de l'entreprise, et puis quand ça allait pas, on virait. Quand ça allait bien, tu t'entendais bien avec le papa, tu étais promu, etc. Pour moi, rien à voir. Pour moi, parce qu'à l'époque, c'était le paternalisme, tu allais dans les entreprises et tu étais obligé de répondre à l'espèce de directeur qui était souvent un homme, etc. Déjà, maintenant, ça peut être une femme, donc elle va être beaucoup plus sensible. Je pense aux besoins de l'homme ou la femme avec qui il travaille. Donc déjà, ça change vachement les mœurs, que ce soit un homme. Donc avant, et puis le boss paternaliste, etc., il fallait lui répondre. Tandis que maintenant, moi, dans ce que je vois de la fonction et de la façon dont je la préconise, c'est que les gens viennent au chef bonheur et parlent s'ils en ont envie, s'ils en ont besoin. Ce n'est pas le chef bonheur qui va dire « Bon, on se prend 20 minutes la semaine prochaine. » Non, non, surtout pas. Il prend du temps pour les équipes pour savoir que ça va bien, mais il n'y aurait aucune obligation pour moi au niveau individuel. L'individuel, c'est s'il a besoin de parler, s'il a besoin d'être écouté. Et pour moi, je le vois surtout dans les gens qui ont pas bien, qui ont besoin de parler. Imagine, le mec est seul, il n'a pas de femme, il n'a pas de copine, etc. Et il a besoin de parler. Et je ne sais pas quoi, sa famille n'est pas là, il n'a pas de pote. Il va faire quoi ? Il va rester dans son coin, il va faire chier tout le monde dans la boîte, etc. Alors que juste, il aurait parlé 20 minutes, il se serait senti mieux avec quelqu'un qui l'écoute. En fait, pour moi, ce que je fais, c'est pour ça que c'est très en raccord, finalement, Stand Up For Passion et ce que je fais dans l'entreprise. Parce que ce que j'ai vu avec Stand Up For Passion, c'est pourquoi les mecs et les nanas sont prêts à se révéler sur scène. C'est simplement parce que je les écoute. Et pendant le coaching, qu'est-ce que c'est la chose la plus importante que tu as à dire au monde ? Qu'est-ce que c'est ? Là, je travaille en plus beaucoup dessus parce que je fais mon TEDx à Maastricht dans 2 semaines, là-dessus, sur le power of personal storytelling.
Je suis navrée parce qu'on a vraiment explosé le temps et ce sujet, je me rends compte, c'est peut-être ton côté passionnette, ton côté passion, qui fait que je me sens là pleine de passion à en parler.
On fera un podcast 2.
Voilà, c'est ça qu'on devra faire. Il y a récemment un Chief Happiness Officer qui m'a demandé en contact sur LinkedIn. J'aimerais bien peut-être interviewer aussi quelqu'un qui est en fonction sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que, vu ce que tu me dis, il y a deux choses qui me viennent. C'est quel est son réel pouvoir d'action sur des groupes, sur les pratiques managériales, j'ai envie de dire, de l'entreprise. Parce que en fin de compte, tu te retrouves à un poste ultra stratégique. Et puis, il faut trouver des gens avec un équilibre intérieur, une compréhension de l'autre qui demande une maturation qui me paraît, quand tu parlais de chaman, voilà quoi.
Ah non, c'est pas pour tout le monde. C'est le seul truc dont j'ai un peu peur.
Est-ce que les Chief Happiness Officer que j'ai vus là étaient très jeunes, quoi. Donc, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas être mûr, jeune, mais ce que tu me décris là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment des gens qui aient compris quelque chose de profond chez eux et chez les autres, quoi.
Ah oui, pour moi, c'est... ils peuvent être jeunes et avoir ce qu'on appelle en anglais « the old, old soul », tu sais. Et à ce moment-là, ils peuvent se mettre vraiment à la place de l'autre et développer une empathie, parce qu'en fait, c'est ça.
Oui, puis surtout trouver les moyens d'action derrière.
Bien sûr.
Le psy des équipes. Et est-ce que c'est un peu bizarre d'avoir son psy sur son lieu de travail, tu vois ce que
bien
je veux
sûr.
Dire
Non, c'est pas évident. C'est quelque part, c'est un truc très important. Pour moi, ça va être une nécessité dans chaque boîte de plus de 50 personnes d'avoir un mec ou une nana qui fait que ça. Nécessité. J'ai un ami qui travaille aux Nations Unies en tant que spécialiste du bonheur. C'est le monsieur bonheur là-bas. Pour lui, l'importance du bonheur au travail va être aussi importante que la révolution industrielle.
Waouh, ok. Bon, alors à suivre, hein, parce que là, tu m'intrigues, mais on est vraiment, vraiment au-delà du temps, tu vois, raisonnable. Donc, j'enchaîne, si tu es prêt, avec le questionnaire, qui est commun à toutes les interviews.
D'accord, comme pivot.
J'aimerais avoir les talents d'intervieweur de pivot, mais je vais rester dans mon petit podcast et te demander quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons en as-tu tirées ? Est-ce que tu t'es planté, Arnaud ?
Tu sais quoi ? Je vais faire un TED Talk un jour sur les plantages. J'ai dû me planter au moins 100 fois. Je connais personne qui s'est planté, qui est raté autant de fois. Et moi, je le dis parce que de toute façon, c'est ce que je suis maintenant, c'est de parler de ce que tu es à fond. Mais je me suis tellement planté dans tellement de boîtes, dans tellement de projets, etc. Et puis, donc effectivement, j'ai l'impression que tu te plantes de moins en moins avec la vie, mais ça va continuer, et puis j'en aurai toujours. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que tu sais qu'il y a des grandes chances, quand je débute un projet, que ça se plante. Mais sûr, c'est tellement intégré. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est tellement intégré qu'il y a des grandes chances. Je le fais de toute façon. Parce que je sais que, bon, pour moi, peut-être parce que je suis un créatif et je n'étais pas un mec avec une méthode, et un scientifique, un mec avec un project manager, je n'ai jamais été comme ça. Mais je me suis tellement planté que, effectivement, après tous mes succès, c'est du fait que je me suis planté, c'est tout ce que j'ai appris.
Un exemple concret et une chose que tu as apprise.
J'en ai tellement. Il y en a deux où le problème, c'est que.
On va en faire qu'un, hein, parce que tu te rappelles, on a dépassé le temps limite.
Ah oui, c'est vrai. On va en faire un. Là où je me suis planté, c'est que j'ai fait un film en tant que réalisateur-producteur, Little Klaus, Big World, il y a combien de temps j'avais ? En 2011, on a terminé le film, il y a 5 ans. C'est un film qui a pris 2-3 ans de ma vie. On avait levé des fonds un peu au Japon, des fonds en private equity. On a fait le film dans le monde entier. J'ai tout mis dedans, après mes épargnes, etc. Il y a ma femme qui m'a suivi. On est au bout du monde. On a fait 6 pays. C'était un film de comédie. Et on a eu plein de prix dans les festivals. Meilleur film comique, etc. Et j'étais reçu par le président de Sony. Enfin, tout. Et puis, personne, on n'est pas arrivé à distribuer le film parce que le film était tellement, quelque part, loufoque, différent, unique, Ils savaient pas du tout comment le marketer. Et ce qui m'a arrêté un petit peu ma carrière de comédie et j'ai viré d'autres choses. Et donc ça, c'était quand même un grand ratage. Je vais le mettre un jour sur Netflix ou quoi que ce soit. Mais grâce à ça, effectivement, j'ai été obligé de rentrer dans la profondeur. Je crois que j'étais quand même un peu en surface beaucoup dans ma vie. Avec ça, ce qui m'a permis de. Bah, après, j'ai fait beaucoup de volontariat, j'ai passé du temps dans les tribus, etc. J'ai monté d'autres événements juste pour faire de l'argent dans le côté business. Et puis aujourd'hui, j'ai fait ce que je fais. Mais sans ça, jamais j'aurais pu monter quelque chose comme Stand Up for Passion, qui est quelque chose le plus en profondeur. Mais je l'ai monté aussi avec le côté entertaining. C'est un show que j'ai monté. C'est un pur show émotionnel. Mais c'est un show parce que j'ai mon expérience de Hollywood. Mais c'est quelque chose d'émotionnel parce que c'est tout ce que j'ai appris en moi quand j'ai pas pu vendre ce film. Donc voilà, un exemple de ratage qui a été une grosse claque dans la gueule, mais
Mais qui t'a réorienté vers quelque
qui m'a
chose
réorienté de
de plus
complètement
profond.
différent, pas de plus profond, d'extrêmement profond.
D'accord.
C'est quelque chose qui me passionne et qui va être un des sens de la vie jusqu'à ce que je meure.
Alors maintenant, quelle technique ou outil t'a le plus fait avancer personnellement ou professionnellement?
Comme je suis fasciné par les différentes expériences dans le monde entier pour améliorer justement tes capacités à tout point de vue, j'ai été invité cet été à suivre un personnage fou, un scientifique fou, qui va être invité à Stand Up for Passion en mars, à raconter justement son histoire. J'ai été invité à suivre ses cours pendant 7 jours, enfin ses cours, son training à Sedona dans l'Arizona. Et là, j'ai fait la Bio-Cybernaut Institute. Donc, lui, il m'a invité. Donc, j'ai eu la chance de faire ça gratuitement. Jamais j'aurais pu payer pour un truc comme ça. C'est un truc qui vend à 15 000 euros par semaine, par personne. Ça a été quand même assez extraordinaire sur le développement personnel. Et puis, il est réputé, si tu veux, pas dans le monde scientifique. Ce n'est pas un charlatan. C'est un mec qui est vraiment réputé. Donc, lui, il te met des électrodes sur la tronche pendant une semaine, 5 heures par jour, en biofeedback, et qui voit la réponse. Tu vois la réponse immédiate sur quelle partie de ton cerveau ont marché pendant que tu méditais sur tel ou tel domaine. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre.
Si,
Donc
si,
tu regardes.
c'est très simple. En plus, j'ai vu les photos, je crois que tu les avais publiées à l'époque sur les réseaux sociaux.
D'accord, bah alors tu as peut-être vu la photo. Donc c'est incroyable parce qu'on dit toujours, on sait que l'importance de tes pensées sur ce que tu fais dans la vie, ça on le sait. Mais quand tu le vois, le résultat, c'est que tu vois des chiffres. Toutes les 2 minutes, il arrête la machine et tu vois le pourcentage de tes différentes parties du cerveau qui ont marché ou pas. Et alors ça, c'est assez affligeant.
Et
Et donc,
en quoi ça influence ton comportement après? Qu'est-ce que ça change?
parce que ça change, en fait, ça change consciemment et inconsciemment. Parce on a tous envie de s'améliorer. Donc, en soi, il y a quelque chose qui se passe et que tu vas t'améliorer naturellement sur les parties de ton cerveau qui ne marchent pas. Ouais, moi, par exemple, voilà, je suis un pur créatif, 100% hémisphère gauche, droit. Hémisphère de droit de ma tête est toujours en ébullition. Les idées, les projets, les créatifs, l'humain, etc. Côté logique est vache en retrait. Et on voyait au début de la semaine, très en retrait, et consciemment et inconsciemment, le côté logique, la partie logique de mon cerveau, elle se mettait à marcher, à marcher, à marcher. Jusqu'à la fin, elle n'était pas au même niveau que le côté créatif, mais elle était super avancée. Elle était à un niveau, on va dire, très acceptable, au-dessus du niveau moyen. Alors ça, c'était, effectivement, je le vois par des choses que je fais, la façon dont je fonctionne. Donc, c'est un truc qui s'est passé inconsciemment. Consciemment, tu as envie que ça s'améliore, mais tu sais pas comment ça va le faire. Et ça s'améliore inconsciemment parce que tu regardes ces chiffres et tu veux que ça s'améliore. Donc, ça, c'est extraordinaire au niveau outil, le Bio-Cybernaut Institute de
Donc,
Sedona.
vous avez entendu, hein, si vous avez 15 000 euros, allez au Bio-Cybernaut Institute. On se retrouve tous là-bas. Troisième question, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
L'humain, l'écoute. Voilà, l'humain et l'écoute, c'est... Bah, tu sais, c'est ton métier aussi, toi c'est ton seul métier, tu es à fond là-dessus, donc tu comprends par cœur ce que c'est. Il y a encore des managers, malheureusement, qui ne sont pas là-dessus.
D'accord.
Pour être manager, tu es obligé d'être un bon parleur, tu es obligé d'être un bon speaker, tu es obligé. Il y a des gens qui peuvent combiner, je crois, le speaking et l'écoute. C'est pas beaucoup, c'est rare. Mais ça se développe. Alors là, pour développer, c'est faire, je pense, tout ce qui est dans la mindfulness, la méditation. J'ai été invité aussi cet été à suivre les cours gratuitement de Search Inside Yourself, qui est la plus grosse boîte
C'est de
de...
Google, ça émane
Ouais,
de Google.
c'est ça, c'est le... Comment il s'appelle, le chinois ingénieur qui fait ça, qui est un mec passionnant que j'ai rencontré à... Tu as peut-être entendu parler, je l'ai rencontré à Wisdom 2.0. C'est
Ouais,
la
bien
grande
sûr.
conférence de mindfulness à San Francisco. J'y étais et là, ils m'ont rencontré, ils avaient entendu parler de moi, ils m'ont invité à voir et suivre et pratiquer leur séminaire de 2 jours à Toronto il y a un mois ou deux. Et donc là, c'est que sur l'écoute pendant 2, 3 jours. Donc je pense que les directeurs d'entreprise qui étaient là, je pense qu'ils ont pu, j'espère qu'ils ont un petit peu changé en revenant dans leur boîte, mais c'est que ça. Et ce qui est dur, parce que la plupart de mes boîtes, mes copains sont présidents de boîte, et je comprends que c'est dur, parce qu'ils ont les yeux rivés sur comment on va vendre plus de produits, comment on va être là, pour être, parce qu'on est dans une époque où effectivement, n'importe quelle boîte peut vraiment se casser la gueule dans un an, même s'ils ont eu 15 millions de dollars d'investissement. Et donc, c'est très dur d'être à l'écoute des employés, etc.
Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué?
Alors, j'ai plein de livres, je lis
Ah non,
constamment.
mais que un, attention, il nous reste 10 secondes.
Ah, ça, t'es dur, là. T'es très dur, Joanna.
Ah ouais, mais
Non,
attends, là.
alors,
Il
attends.
faut. Non, mais pour être créatif, il faut un cadre. Et je
Oui,
te pose ce cadre. Donc, sois créatif, toi qui es créatif,
Est-ce que
donne-moi un livre.
je peux négocier? Je peux t'en dire deux.
Non, un, on a dépassé le temps, tu n'imagines pas. Allez.
Je vais t'en donner un qui est le dernier que j'ai lu sur le team building, donc mon domaine, qui est Great Teams. C'est un livre en anglais. Je suis sûr qu'il est distribué en français parce que
Ça
ça s'appelle
habille tous
Great
les
Teams.
auditeurs parlent anglais maintenant, de nos jours tout le monde parle anglais. Donc
Super.
c'est très bien.
Great
Great
Teams.
Teams, tu sais qui l'a écrit?
Oui, c'est Don Yeager. Et
Ok.
attends, attends que je me souvienne, c'est Yager, Don,
Jaeger.
Don Yeager. Great Teams, c'est super sur le team building.
Ok, merci beaucoup. Et peut-être une citation pour finir, une citation qui pourrait nous inspirer.
Être sur une corde raide, c'est vivre, le reste n'est qu'attente.
Eh ben merci beaucoup Arnaud, je vais faire vite et on va, comme on dit en anglais,
Wrap up.
wrap up. Merci beaucoup parce que oui, en effet, je sens que je suis toute en ébullition, ça doit être ton côté passionné qui influe sur moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut rentrer en contact avec toi? Tu es sur les réseaux sociaux ou tu as un site internet?
Je suis sur les réseaux sociaux très facile, sur tous les réseaux sociaux. Le plus simple, c'est qu'ils aillent sur ma page personnelle qui est arnaudcolery.com. Et là, ils peuvent m'envoyer un email. Ils peuvent suivre mes Twitter à Stand Up For Passion. C'est Stand Up For Passion avec le chiffre 4. Ou mon Twitter qui s'appelle Kikai Mining. C'est K-I-K-A-I Mining. Et puis, j'ai ma page Facebook Stand Up For Passion.
Je mettrai ton site internet
Très bien.
dans la description du podcast. Comme ça,
Super.
là-bas, je pense qu'on peut tout retrouver, c'est ça?
Voilà.
Encore une fois, un grand merci. Bah, je te souhaite bon voyage puisque tu voyages énormément, même si tu restes un peu en France là.
Mais là, je suis à Paris pendant un mois.
Bon, c'est bien, ça va te faire du bien aussi de te poser un peu.
Ouais, non, c'est super. Puis, si jamais les gens sont intéressés par le métier de Chief Happiness Officer, ils peuvent me contacter. Je vais être dans les bureaux de Humaning parce qu'à Paris, je vais notamment aussi coacher tous les speakers pour le TEDx Femmes, Champs-Élysées Femmes, le 4 novembre. Donc, je serai dans le quartier de l'Opéra, dans le quartier de Humaning. Et j'invite les gens qui veulent en savoir plus, surtout s'ils veulent se former sur le métier de Chief Happiness Officer, à me contacter ou peut-être à venir me voir le 4 novembre à TEDx Champs-Élysées Femmes. Je serai dans la salle pour voir les petites brebis sur scène.
Bah, merci beaucoup Arnaud, et puis bah, je te souhaite une très belle semaine.
Super, merci à toi Johanna.
Bon bah nous on se retrouve la semaine prochaine, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis j'aime bien profiter de ces petits moments en intro et en conclusion du podcast pour passer des petits messages de gratitude. Et aujourd'hui je voudrais dire un grand merci à Bérangère. Bérangère qui, après certains des podcasts, et pas mal des podcasts d'ailleurs, m'envoie un petit mot, une réflexion, un éclairage. Et ces derniers éclairages ont été très intéressants pour moi. Donc un grand merci à Bérangère. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Passez une très belle semaine. Au revoir.